Déborah Waldman, vous venez de présenter la saison 2022-2023 de l'Orchestre National Avignon-Provence. Avant de parler des grandes lignes de cette saison, est-ce que je pourrais connaître un peu vos enseignements que vous avez tirés de la saison écoulée, qui a été une saison pleine et quand même un petit peu perturbée par les conditions sanitaires?
Oui, pour moi, la saison a commencé vraiment en janvier. Avant ça, il y a eu encore les distanciations, il y a eu les masques des musiciens, des publics, qui étaient toujours des freins pour nous, pour nous exprimer complètement et de créer cette communication avec le public. Les enseignements seraient qu'on peut toujours survivre à la crise et que la musique, show must go on, voilà, la musique doit continuer parce que c'est vital. Je pense que chaque musicien a grandi dans cette crise, chaque personne dans tous les métiers, et combien on peut vraiment voir que la musique est essentielle dans notre vie.
Dès la saison dernière, vous avez entrepris ce travail de découverte ou de redécouverte des compositrices féminines. Ce travail va être prolongé cette saison. Mm-hmm. Est-ce qu'il va y avoir des différences et des nuances dans ce prolongement du travail?
Bien sûr, on va découvrir donc plutôt dans tous les aspects. Je suis très heureuse qu'on va même jouer une compositrice à l'opéra cette année, la sérénade de Sophie Gale, donc, qui avait beaucoup de succès à l'époque. Elle était quand même pendant 10 ans tête d'affiche. C'est assez incroyable. Et qui est tombée complètement dans l'oubli. Et les différences seront aussi dans les genres. Donc il y aura des symphonies, des concertos, ouvertures. Et ça va se prolonger, certes, parce que je souhaite que ces œuvres soient connues et reconnues et que petit à petit, tous les orchestres qu'elles rendent dans les grands répertoires.
Il faut d'abord trouver la compositrice et après explorer le répertoire et après trouver la pépite. Mm-hmm. C'est facile de trouver la pépite.
C'est comme vous dites, il faut la trouver, mais c'est plutôt, elle vient à nous. Bien sûr, il y a beaucoup de terres, n'est-ce pas? Et puis on écoute, et là on dit, ah, ça, ça vaut la peine. Et c'est là la pépite. On a beaucoup de chances d'avoir la boîte à pépites en partenariat avec l'orchestre, parce qu'ils nous aident aussi dans la fournition des partitions, de faire un travail de découverte, dans lequel c'est plus simple. Quand on est plusieurs à penser qu'une pièce a de la valeur, c'est plus rassurant.
Quand on compose un programme symphonique, comment ça fonctionne entre le désir d'une œuvre, le désir d'un musicien, l'envie d'un soliste ou d'une soliste? Comment on arrange la recette, si j'ose dire?
Alors moi, je fonctionne d'abord la musique. Il y a une pièce que j'ai vraiment envie de faire, donc je la mets. À côté, ça m'inspire une ouverture, et après, petit à petit, ça prend forme. Les solistes, ça vient après, encore, et les chefs, ça vient encore après. Mais au début, je faisais des fois des titres et puis en fonction du titre, la musique, et ça ne marchait pas. C'était beaucoup plus simple d'aller chercher d'abord la musique et les restes s'accommoder autour.
À quel moment on se dit, là, le chef, ce sera moi?
Ah, bonne question. Oui, par exemple, bien sûr, les concerts d'ouverture et de clôture, c'est moi. Et les œuvres qui me tiennent vraiment à cœur, c'est moi. Bah, par exemple, la troisième de Mendelssohn, le concerto de Marie-Jaël que je tenais absolument à faire, et le psaume 42 que je rêve de faire depuis des années. Qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, les programmes lyriques qu'on amène à la Philharmonie de Paris. Et puis, le concerto, la troisième de Farenc aussi, je tenais à le faire. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe entre guillemets entre nous, c'est que je me positionne d'abord ce concert-là d'une façon harmonieuse, architecturale. Après, on construit la saison.
La plupart du temps, dans un rendez-vous symphonique, généralement, il y a un ou plusieurs solistes. Là, c'est plutôt un ou une soliste. Mm-hmm. Et cette année, en fait, il va y avoir deux concerts avec l'instrument le plus évident, ce seront des chanteuses.
Oui, c'est vrai que cet orchestre, donc d'identité lyrique, naturellement, et aujourd'hui, de plus en plus aussi symphonique, j'y tiens à cet aspect vocal dans le symphonisme, puisque ce n'est pas la même chose que quand on est à l'opéra. Avoir les chanteurs sur scène à côté de nous, on n'est pas dans la fosse. Et là, je trouve qu'il y a une proximité et une espèce d'alchimie entre les chanteurs et l'orchestre qui est encore plus forte et à laquelle je tiens beaucoup. D'où ce programme.
L'élaboration d'un programme, est-ce qu'elle tient compte aussi du lieu où le concert va être interprété? Bon, vous allez jouer à l'opéra, bon, là c'est une salle à l'italienne, vous allez jouer à Lyon ou à Paris, même la Philharmonie, comme son nom l'indique, c'est une salle pour la musique. Et quand vous allez jouer à la salle des fêtes d'Apt, quand vous allez jouer au Collège Roumanie, l'acoustique n'est pas du tout la même.
En effet, et en même temps, là maintenant l'orchestre a des panneaux pour créer une espèce de théâtre, et ça c'est rassurant et ça, c'est agréable aussi pour le musicien. C'est une question de détail. Bien sûr qu'on ne pourra pas aller jouer à la salle de fête des Apt, la deuxième des Brahms, avec trois trombones et quatre contrebasses et 16 premiers. Là bien sûr, c'est juste des questions entre guillemets pratiques.
Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur la passion, le coup de foudre qui vous a animé autour du beatbox?
Oui, c'est vrai, parce que je suis quelqu'un de très rythmique de nature. Et voir comment on peut scander comme ça pendant des heures sur un rythme, quelque part, ça génère en nous des vibrations autrement que les vocales. Et je suis aussi quelqu'un d'extrêmement vocal. Je pense que ça venait compléter ça et peut-être ça rejoint mon origine brésilienne.
Comment on marie le beatbox, qui est vraiment une expression un peu plus contemporaine, avec un orchestre savant, si on peut dire?
D'abord, on peut faire le plus simple, c'est lui donner de nous faire un accompagnement. Et ça, ça marche parce que sur n'importe quelle musique un peu rythmée, on fait tum-tch, 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 et ça marche. Mais après, l'idée, c'était d'aller plus subtilement dans une espèce de dialogue et qu'il nous compose des pièces avec une inspiration du répertoire. L'idée, c'est que les jeunes musiciens qui vont siffler la cinquième de Beethoven, et parce qu'ils vont l'aimer, parce que c'est du beatbox, mais un jour ils sauront que c'était en fait la cinquième de Beethoven.
L'orchestre va être en concert, il va être dans la fosse d'orchestre au moment de la plupart des opéras. Il va donc jouer dans des écoles, il y aura des spectacles jeunes publics avec les musiciens. Il y aura ce concert, cette création vraiment inédite autour de la beatbox. À la Courroie, j'ai regardé, c'est un programme 100% baroque, donc la musique ancienne. Vous me direz, c'est leur boulot, ils ont du talent. Mais est-ce que vraiment ce type d'orchestre peut tout, absolument tout jouer?
Alors, je pense que l'objet, justement, orchestre, tant qu'il est conçu en orchestre permanent, qui n'est pas ni spécialiste ni de la musique contemporaine, ni du romantique, ni du baroque, ni du classique, on est obligé d'avoir cette grande palette et je l'associe beaucoup au généraliste, c'est un médecin généraliste. Il connaît un peu tout sur tout, mais il n'est pas vraiment spécialiste sur rien. Donc nous, on essaie d'approfondir le plus possible, par exemple en amenant un chef spécialiste de musique contemporaine quand on joue du contemporain, en amenant Julien Chouvin sur un chef baroque quand on joue du baroque, mais on est obligé de garder cette vision globale des espèces de représentativité de l'art et de la culture aujourd'hui.
Cette vision globale, et je dirais entre guillemets tout terrain, est-ce qu'elle est plus facile encore à faire accepter par rapport au fait que l'orchestre, il y a actuellement un renouvellement, c'est-à-dire qu'il y a des musiciens ou des musiciennes qui s'en vont parce qu'il y a la retraite, et je suppose que les nouveaux musiciens, ils sont beaucoup plus jeunes, donc ils sont peut-être plus ouverts, ils sont moins figés dans les habitudes.
Absolument, ça c'est un grand avantage, parce qu'on pourra peut-être pousser, entre guillemets, plus à droite, plus à gauche, avec la nouvelle génération qui eux-mêmes connaissent la musique différemment, parce qu'ils l'ont appris différemment, et certains d'eux, et pour beaucoup d'entre eux, ils jouent aussi d'instruments d'époque. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un terrain complètement artistique nouveau à explorer.
Vous avez été reconduite pour 3 ans à la tête de l'ONAP. Vous n'allez pas tout me dire, mais est-ce que vous avez déjà des rêves, des idées qui commencent à se mettre en place pour les 3 prochaines années?
Oui, absolument. Et naturellement, continuer à exhumer des œuvres des compositrices et puis justement aller plus dans ce sens des historiquement informés. Pourquoi pas des fois sur instruments d'époque, pourquoi pas, avec les nouveaux recrutes, s'ils connaissent, voilà, donner cette envie de vraiment jouer historiquement informé et surtout rester quand même sur instruments modernes parce que c'est ça notre représentativité.
Très belle saison.
Merci beaucoup à vous.